Vous êtes sur RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue dans Parlons-nous. Vous m'entendez bien ou
Oui.
Vous êtes un peu intimidé.
Un
de vous retrouver
peu,
à l'antenne, mais vous allez voir, ça va vite se dissiper. On va se parler tranquillement de ce qui vous amène et un peu d'un problème de solitude affective.
Oui.
Vous vous sentez un peu seul actuellement?
Oui, bah, j'ai eu quelques événements. Disons, comme j'avais expliqué, je suis non-voyant et.
Oui.
Ça fait 9 ans que je suis divorcé, quoi.
D'accord.
Et comment dirais-je Mais bon, voilà, j'ai acheté une maison, je fais des travaux, tout ça. Je veux dire, je m'occupe dans ma vie, quoi.
Oui.
Et alors,
vous êtes
truc,
non-voyant de naissance ou un accident
Non-voyant par accident, quoi. Il y a 30 ans que j'ai eu un accident.
D'accord. Voilà. Oui, il y a 30 ans, donc
j'ai pris l'habitude, quoi.
Oui. Oui. Comme vous dites,
oui,
il vous a fallu certainement, voilà, aujourd'hui, vous avez ce recul, ça n'a pas dû être simple, mais vous êtes battu et aujourd'hui, comme vous dites, vous êtes parfaitement autonome, malgré ce handicap. Et donc, divorcé depuis 9 ans.
Oui, et donc, j'assumais bien, quoi, je travaillais, tout ça, enfin, j'ai ma vie qui est réglée comme du papier à musique, quoi.
Oui.
Et alors, il y a six mois, j'ai perdu mon chien. Et mon chien, ça faisait 13 ans que je l'avais, ma petite Nénette, comme on dit, quoi.
Oui.
Et ma petite Lily. Et donc, elle était avec moi 24 heures sur 24, quoi.
Ben oui. Et C'était un chien guide ou pas du tout?
Non, un chien de la SPA, quoi.
Oui, que vous aviez été chercher, d'accord.
Voilà.
Vous l'aviez eu, elle avait quel âge?
Oh, elle était jeune, elle avait à peine un an, quoi.
D'accord. Elle s'appelait comment?
Lily.
Ah, comme la mienne. Ouais.
Oui.
Oui, donc ça a rajouté à votre solitude, parce que c'était votre petite compagne, quoi, de vie.
Mais
elle était là. Bah, oui.
Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et en 24 heures, elle est partie. On a dû l'euthanasier, tout ça. Donc elle est morte dans mes bras. Et ça m'a choqué. J'ai pleuré. Je n'ai jamais pleuré autant de ma vie. Et. Voilà, quoi. Donc ça m'a ramené, ça m'a fait un gros choc dans ma vie. Et alors depuis ce jour-là, la solitude, je l'ai. Waouh!
Oui, je comprends très bien.
Voilà, donc j'ai essayé de.
Mais oui, parce que quand vous. C'était. Elle était là, enfin, comme vous dites, elle était avec vous dans votre quotidien, vous rentriez chez vous, il y avait cette petite vie dont vous vous occupiez, vous pouviez lui parler, enfin, c'est une présence, c'est un ami, aussi un chien. Et quand on vit seul, c'était votre petite compagne de vie, ouais, qui partageait tout.
Elle partage tout,
Oui.
Et donc, voilà, quoi. Et, alors, si vous voulez, j'avais fait l'effort d'aller sur un site de rencontre pour essayer de trouver une compagne, quoi. Et je vais pas citer le site, mais c'est un site sérieux, gratuit, mais tant soit peu sérieux, quoi.
Oui, oui.
Et donc, mais alors, Caroline, ce qui m'a étonné, beaucoup étonné, c'est que je devais dire aux femmes déjà que je cherchais pas une infirmière, mais une compagne, quoi, voilà. Et parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire comprendre aux dames que j'étais non-voyant, mais j'étais très active, quoi. Je faisais ma maison, je faisais tout. Et les dames ne comprenaient pas, quoi. Alors, il y a cette image qui me colle à la peau, comme on dit, quoi. Mmh. C'est-à-dire que pour beaucoup de femmes, non-voyant, il faut s'en occuper 24 heures sur 24, quoi.
Mmh.
Et à chaque fois, on me ramène oui, mais non, t'es non-voyant, tout ça, oui, mais bon. Alors, je peux comprendre, parce que, moi, je cherche quelqu'un de mon âge, j'ai 59 ans, je peux comprendre que si une dame est divorcée, qu'elle a élevé des enfants, tout et tout, je peux comprendre qu'elle n'ait pas envie d'avoir un non-voyant de ça. Bon, parce que bon, c'est vrai que je ne peux pas compter à tout. Mais ici, chez moi, je ne suis pas non-voyant. Je suis quelqu'un de voyant. Je travaille, je fais tout moi-même. Je suis très autonome et tout. Donc, c'est difficile à faire comprendre ces choses-là, quoi. Et...
Oui, mais c'est vrai que c'est un vrai problème sur le regard que l'on porte sur le handicap qui suscite enfin un peu inévitablement de la compassion dans le meilleur des cas, mais parfois aussi de la pitié et en fait de la peur derrière. Quand vous êtes inscrit sur ce site, vous dites bien c'est vous Stéphane souffrant de la solitude. Vous aviez envie de rencontrer une femme pour partager des bons moments, vivre une histoire d'amour. Vous cherchez pas une auxiliaire de vie, une infirmière.
Ah, non, comme
forcément, vous précisez que vous êtes non-voyant, parce que vous n'allez pas cacher cela. Comme si ce qui est terrible, en fait, est très injuste. Il ne s'agit pas, vous voyez, je critique pas l'attitude de ces femmes parce que ça pose une question dans laquelle on peut tous se reconnaître au fond de la peur. Vous voyez, oui. On voit face au handicap, on voit toujours ce qui manque. Vous voyez, on le pense en termes de ce qui manque à la personne.
Exactement.
Et on ne pense pas s'il faudrait. À se dire au fond tout ce que vous avez dû tout ce que vous avez presque en plus parce qu'il vous a fallu puiser en vous-même là où quand on a la chance d'être valide ou de ne pas être confronté à la maladie ou à l'accident, on n'a pas toujours conscience de nos possibilités. Une personne confrontée au handicap, puisque c'est pas de naissance, vous me dites ça s'est arrivé il y a 30 ans, je sais pas quel âge vous aviez d'ailleurs à l'époque.
Enfin, pas 27 ans, quoi.
Ouais. Bon. Donc, très jeune comme ça, et là, mais il faut puiser en soi, mais il vous a fallu des trésors de combativité, en fait. Il vous a fallu développer une force pour surmonter cela. Et ce qui est terrible, c'est que, malheureusement, quand une personne, on la résume à son handicap, on ne voit plus que ça. Voilà. On voit tout ce qui lui manque et pas au contraire tout ce qu'elle a presque en plus pour avoir pu surmonter au point de vous dites ok je suis non voyant mais c'est pas un problème quoi je travaille je vois sur votre fille je jardine je vois que vous faites même de la guitare de la batterie
guitare batterie
vous êtes vous cherchez pas vous cherchez l'amour vous cherchez pas quelqu'un pour s'occuper de vous quoi.
Ah non.
Pour s'occuper de vous, pour prendre soin de vous, comme quand on est amoureux dans une relation, on prend soin de l'autre aussi, ça c'est bien normal.
Mais oui, bien sûr. Mais se promener à la plage, faire des choses, faire à manger, je veux dire.
Partager.
Partager, parce que c'est beaucoup à la mode maintenant, et je ne le critique pas. Bon, c'est pas forcé de vivre avec la personne 24/24, ça peut être quelqu'un qui vit, on vit chacun chez soi, mais on partage des moments. Je veux dire que je suis prêt, je suis quelqu'un de très ouvert et puis avoir une compagne dans la vie, c'est-à-dire que tout ce que je fais dans la vie, l'expérience de vie que j'ai acquis, la vision que j'ai des choses, c'est-à-dire qu'il y a les choses qu'on voit et il y a les choses qu'on entend.
Oui.
Et c'est différent, quoi. C'est parce que quand on ne voit pas, on voit au plus profond des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc
Non, mais vous allez me l'expliquer, parce que je crois comprendre, mais c'est-à-dire que ça vous a donné quoi? Une acuité particulière?
Il y a de la clairvoyance, il y a tout ça. Il y a le ressenti, la compréhension des choses, quand j'écoute quelqu'un parler, vous savez, à travers une voix, on peut déceler beaucoup de choses.
Oui.
Il y a la tessiture, l'émotion, la vibration de la voix, l'hésitation de la voix, on ressent beaucoup de choses. Et j'ai une
sensibilité particulière.
Je synthétise quand j'entends la télé beaucoup plus rapidement.
Oui.
Parce que je ne suis pas gêné quand j'étais voyant, je regardais. Alors quand on regarde, on voit la personne, donc on est happé par l'image, oui. Et on n'entend pas toujours ce qu'il dit. Et je me suis aperçu que depuis que je suis non-voyant, qu'il est beaucoup mieux d'entendre ce qu'on ne dit pas. Aller au plus profond des choses, quoi, voilà.
Oui, mais c'est très beau ce que vous nous dites, et en fait, ça montre que, enfin, ça nous interpelle tous sur le fait que, au fond, moi je pense que c'est dès l'école qu'il faudrait apprendre aux enfants. Pas ce qu'ils peuvent apporter aux personnes handicapées, mais en fait ce que les personnes qui ont été confrontées à un handicap ont à nous apporter, à nous apprendre.
Oui, il y a une richesse de vie. Oui. Il y a une richesse de vie.
Oui.
C'est-à-dire qu'on n'est plus. On est plus attentif aux petites choses. Vous voyez, je me lève le matin, je bois un café, je suis heureux. S'il fait beau, je vais dehors dans le salon de jardin, j'entends les oiseaux, je suis heureux. C'est-à-dire qu'on se contente des petites choses. Et bon, voilà, et puis...
Moi, je dirais pas que vous vous contentez. Oui, c'est-à-dire que vous... c'est formidable d'avoir trouvé la force de vivre, finalement, en étant confronté à ce qui nous fait tous très peur. Parce que je crois que dans les handicaps, le fait, si on interrogeait personnes, perdre la vue, et peut-être vous-même avant que cela vous arrive, c'est quelque chose qui est très angoissant. Et justement, avoir trouvé, avoir développé, je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce qui vous a aidé, permis de peut-être savourer la vie encore plus intensément. De trouver cette force de vivre là où parfois, on le sait bien, et particulièrement quand on est psy, où beaucoup de personnes, vous savez, la fameuse expression qui veut rien dire, oh, il a tout pour être heureux, ou elle a tout pour être heureuse, et pourtant il n'est pas.
Oui, mais non.
Et on voit que des personnes qui sont confrontées à des épreuves véritablement trouvent en elles la force non seulement de vivre, de tenir debout, et de trouver du plaisir, de, voyez. Et après, c'est à chacun. Je ne sais pas ce qui vous a aidé, vous, finalement.
Vous savez, quand j'étais voyant, je travaillais, je prenais ma voiture, je faisais ci, je faisais là, de la moto, tout ce que vous voulez.
Oui.
Mais on vit à 100 à l'heure, d'ailleurs. On vit, tout ça et tout. Mais, vous savez, quand ça m'est arrivé, je voulais me suicider, je dis, c'est impossible. Et petit à petit, il y a une transformation. Parce que vous savez, l'être humain, il a un trésor bien caché. C'est-à-dire cette force que vous appelez cette énergie, elle est en nous. Mmh. Mais je ne sais même pas où je suis allé le chercher. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a eu une transformation.
Mmh.
Alors ça commence par en disant, de toute façon, je suis aveugle, j'aurais jamais pu plusieurs dans ma vie. Et puis on entend une belle chanson. On se dit, tiens, il y a des émotions. Et puis après, j'ai rencontré une fille, et je me suis dit, tu peux vivre, quoi. Mais le cerveau va s'adapter. C'est-à-dire, il n'y a pas deux solutions. C'est irrévocable. C'est soit la vie, soit la mort. À partir du moment où votre cerveau, il vous dit de vivre, parce que, vous allez chercher ces choses qui vont vous aider à vivre. Mais c'est une transformation qu'on ne contrôle pas. La preuve, c'est qu'il y a des gens après un suicide ou un drame, ils se suicident. Moi, j'ai choisi de vivre, parce que c'est mon cerveau, la transformation s'est faite et tout. Ça s'est fait naturellement. Après, je ne vais pas vous mentir, Caroline, il a fallu une grosse adaptation. C'est terrible de passer du jour à la nuit.
Vous le dites à un moment, vous dites vous viviez à 100 à l'heure, vous faisiez de la moto, et à un moment c'est le désespoir qui vous est tombé dessus, dire la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Évidemment que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Puis il y a chose qui vous rattache à la vie. Et je me souviens comme ça d'un monsieur qui m'avait appelé, j'embrasse d'ailleurs s'il écoute, parce qu'il s'occupait d'une petite dame qui est atteinte d'Alzheimer, et avec une infinie tendresse, et il était non-voyant. Pareil par, je crois, maladie ou accident, je ne me souviens plus. Mais il disait que... Enfin, il parlait avec beaucoup de profondeur des relations humaines, de la vie. Il disait qu'il aimait aller dans son jardin et sentir le parfum de ses roses. Et je trouvais ça des choses que peut-être, justement, quand on est dans nos vies en accéléré, où tout va tellement vite, où on savoure plus ces petits plaisirs-là, qu'on savoure finalement intensément quand on met sur pause. Alors pause, ça peut être le temps d'un week-end, ça peut être le temps d'un séjour, la pause estivale, où tout d'un coup on retrouve des choses où on se dit, enfin qui nous font dire finalement, après quoi je cours, quoi, tout le reste du temps et toute l'année. Vous voyez, courir toute l'année pour finalement avoir un petit moment de pause. Et je ne sais pas si je l'ai exprimé, c'est ce que j'entends chez vous, il y a quelque chose qui finalement, la vie qui est plus dense, tout d'un coup plus de saveur, plus intense.
Oui, oui. Et vous savez, ce qui est... Bien sûr que je vis seul, et bon, je vous dis, je me réveille en général vers 6h, 5h30 du matin, ça. À 7h, je suis déjà dans le jardin en train de travailler, sauf qu'en ce moment, j'en profite qu'il fait encore beau, quoi. Oui. Donc je remue de la terre, je fais ci, je fais là.
Vous avez un jardin potager, alors ?
Oui, on peut dire à peu près ça, quoi. Mais... Je travaille beaucoup la
terre. Non, vous dites moi, oui, ou peut-être vous avez des fleurs, des...
Oui, voilà, des choses comme ça, des arbres et tout.
Oui.
Et alors, vous voyez ce qui est extraordinaire, quand on dit toujours arracher un sourire au désespoir. Eh bien, quelquefois, parce que je mets toujours en internet, en aléatoire, je mets des pièces de théâtre, des choses comme ça. Même quand je suis pas là. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, c'est bête ce que je vais vous dire, mais j'entends une présence. Bon. Je rentre de la cour, j'entends une présence.
Oui,
donc
je
voilà.
Comprends.
Je fais, voilà. Et j'ai entendu une pièce de théâtre avec, c'était Las Palais et Chevalier Las Palais et tout.
Oui.
Et c'était alors sur Ma femme s'appelle Maurice. Et ce matin, j'étais pas très bien.
Oui.
Et je les ai entendus avec quelques expressions et j'ai éclaté de rire, quoi. Et j'ai dit, mais ouais, eh bien, vous savez, j'ai dit à ces deux hommes, leur Régis Las Palais et Alain, Chevalier, j'ai dit, merci, quoi. Merci parce que c'est bête, je parle à un ordinateur, mais j'ai dit merci de m'avoir fait rire.
Oui.
Voilà, c'est le rire qui
les
est
arraché. Les artistes nous aident à cela. Et en pensant, en vous écoutant, je pense aussi à Jean-Paul Belmondo, qu'on a fait.
Ah,
parce
oui,
que
ça
on
m'a
a...
fait.
Oui, ça vous a fait de la peine, comme à nous tous.
Oh, bien sûr. Oui.
Ben, on a célébré le magnifique, il nous a fait beaucoup rêver, mais il a été aussi. Tellement lui, tellement affecté, tellement atteint dans son corps avec cet AVC terrible qui était d'une gravité inouïe, il s'est battu comme un lion pour finalement récupérer quand même sa mobilité, le langage et c'était notre héros, mais il a été héroïque dans la vie lui aussi, confronté
à cela.
C'est un combattant. Oui, c'est un combattant aussi.
Et vous voyez, c'est quand on parle de... Alors, je dirais pas de leçon de vie, parce que voilà, mais alors, ce Jean-Paul Belmondo que j'adorais, j'ai énormément de films de lui. Eh bien, vous voyez, le matin, quand je suis allé dans mon jardin travailler, il était à peu près 7h, j'ai dit, allez, bébé, lui, il c'était un combattant, il y allait, alors toi aussi, Bruno. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que il est peut-être décédé. Mais la preuve de courage qu'il a donnée, cette joie de vivre,
jamais se plaindre.
Oui, et surtout comment il parlait aux gens avec une tendresse, une gentillesse et tout. Comment ne pas l'aimer, quoi. Hein? Bon, et bien, je lui dis, allez Bruno, vas-y, il t'en prie vivant, vas-y. Alors, c'est peut-être des leçons de vie, mais... Ça nous aide, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi.
Oui, ça nous aide parce que le handicap, il peut prendre tellement de formes. Finalement, on l'est tous un peu. Il y a une auditrice qui dit ça. On a tous des choses qui ne sont pas visibles. Et puis parfois, c'est aussi ces personnes où on dit elles ont tout pour elles et au fond, elles ne sont pas heureuses. Ça peut arriver aussi, on porte... Chacun porte des blessures. Les, et c'est ce que dit Bambi qui envoie un petit message en disant « On est tellement de plus en plus exigeants, on doit correspondre à une norme que les réseaux sociaux en particulier véhiculent plus que jamais. »
Et
quand vous parlez de ce site, je crois qu'en fait c'est important ce que vous dites parce que d'emblée, vous êtes confronté à la peur de ces femmes.
Méconnaissance.
Voilà.
Caroline.
Et il ne s'agit pas de juger, parce que je crois qu'il faut en fait expliquer, comme vous le faites magnifiquement ce soir. C'est-à-dire que quand on parle avec vous, on va au-delà de cela. C'est-à-dire qu'évidemment, vous ne vous résumez pas au fait de ne pas voir. Et je pense que ça prendrait du temps. Qu'au moins, elle vous laisse une chance et que vous puissiez vous rencontrer.
Voilà
que vous... mais en fait, il s'agit... C'est dur parce qu'évidemment, ça, à chaque fois, ça vous renvoie une image de vous qui est pas agréable quand vous dites je suis autonome, enfin, je cherche pas une infirmière. Mais... finalement, prendre le temps au téléphone, peut-être qu'avec certaines pourront entendre ça. Parce que, vous voyez, je reçois un petit message, là. Alors, il est long. Appelez-nous, 09 69 39 10 11. C'est chouette de nous envoyer des SMS, mais ils sont limités à 160 caractères. Et c'est une auditrice, puisqu'elle dit, si je n'étais pas déjà avec quelqu'un, eh ben, je serais en train de tomber amoureuse de Stéphane. Si nous étions un peu plus mélangés, on aurait moins peur les uns des autres, ajoute cette auditrice. Mais je me dis, en parlant avec vous, qu'il y a des femmes, des auditrices qui nous écoutent, qui doivent se dire ça, que vous êtes quelqu'un qu'on a envie de rencontrer.
Je vais vous donner un exemple. Je parle de l'handicap, là. Je fais un petit peu une métaphore. Vous voyez, un cheval de course, c'est-à-dire que quand on est au tiercé, on a des chevaux qui sont pas handicapés, qui sont parfaitement en bonne santé, mais dont le poids varie, ceci ou cela. Alors, pour que tout le monde soit pareil au départ, on leur met du poids sur le dos. C'est ce qu'on appelle un handicap.
Au meilleur, d'ailleurs, souvent.
Voilà, on va leur mettre 2, 3 kilos, 5 kilos, pour qu'ils soient égaux au départ.
Oui.
Eh bien, ce cheval-là, malgré qu'il a un handicap, quand il arrive dans son écurie, quand on va lui enlever ses poids et tout, eh bien, ce sera un cheval normal. Vous comprenez ce que je veux vous faire comprendre? C'est-à-dire que l'esprit est là, la vie est là, l'être, il est là. Alors, c'est bien sûr qu'il y a le fait de ne pas voir et tout, mais je vais vous dire, combien d'hommes ou de femmes qui vivent tous les jours et qui sont incapables de dire, 10 minutes après qu'ils ont vu une personne, comment elle est habillée, ceci ou cela. Ou quoi. Oui. Voilà, parce qu'on a une vision d'ensemble. Je sais, j'étais voyant. Eh bien, maintenant, je suis... le fait d'être non-voyant, on est plus attentif à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais je vois, c'est-à-dire qu'effectivement, un être humain se résume pas seulement à un corps qui marche, qui bouge, qui entend et qui voit. Il y a tout ce que l'on ne voit pas, et il y a tout ce potentiel humain, l'intelligence, la sensibilité, plein de talents, il y a l'érotisme aussi, enfin, il y a toutes ces choses qui sont invisibles comme ça, à l'œil nu, et qui font la singularité d'un être. Bien sûr.
Et on est tous, c'est ce que je voudrais expliquer je l'ai fait dans un temps, à des jeunes et tout. Je dis, vous savez, il ne faut jamais oublier qu'on est tous des hypothétiques handicapés. On est tous des hypothétiques handicapés.
Oui,
donc, si vous vous occupez de moi, si vous me regardez, si vous regardez l'autre, vous vous regardez pour vous-même. C'est-à-dire que c'est pas de la...
C'est pour ça qu'il y a la peur aussi.
Voilà. Ouais. Et le fait de dire, on est tous des hypothétiques handicapés. Mmh. Et là, je marque un point, là, parce que les gens, il y a une prise de conscience. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est-à-dire que moi, quand je dis que ma vie, elle a en une seconde, en une seconde. J'étais plus voyant, j'étais nombré, enfin, point. Bon, mais il y a eu de, voilà. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que les gens qui sont en parfaite santé, s'ils s'occupent de regarder l'autre, ils vont s'occuper d'eux-mêmes, ou de leurs enfants, ou si jamais il y a un handicap, ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est-à-dire, la méconnaissance, elle est là, parce qu'il n'y a pas à la base un regard. Il n'y a pas à la base un regard. Je parle de l'éducation. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, à l'école ou quoi que ce soit.
Mais en parlant de regard, il ne faut pas aussi sous-estimer, c'est-à-dire par rapport à vous. Je reviens à ce que vous me dites, inscrit sur ce site de rencontre. Bah, finalement, les femmes, ça suscite chez elles beaucoup d'émotions ou de craintes, la crainte que finalement d'une dépendance, que finalement qui. Ben oui! Ça vous fait, ben oui, mais parce que en fait, ce regard, c'est quand même quand on, c'est source de beaucoup de blessures narcissiques et quand on est en couple avec une personne qui a un handicap qui est visible, il faut aussi supporter le poids du regard des autres.
Exact. Ah oui, ça c'est vrai.
Parce que
ça,
c'est pas vrai. Simple aussi, parce que les
ça,
autres aussi.
Vous avez
aussi...
parfaitement raison. Oui.
Oui. Et puis aussi, il faut. Parce que derrière ça, il y a plein de peurs. C'est-à-dire que quand on s'aime, quand on vit une histoire d'amour, ben, il y a toujours, il faut avoir en tête finalement que l'on peut se quitter. Or, dans le cas qui nous occupe, la personne qui n'est pas handicapée en couple avec une personne qui a un handicap, ben, elle peut se dire « Oh là là, ben non, je... » Enfin, ça peut d'autant plus la culpabiliser de partir, vous voyez, comme si ça mettait une pression, alors que, ben non, je veux dire, l'histoire d'amour, même s'il y a le handicap, ça n'empêche pas. D'ailleurs, vous nous dites, vous avez été en couple, marié, Stéphane, et puis vous avez divorcé. Oui. Et cette femme, d'ailleurs, vous l'aviez rencontrée, puisque quand vous avez perdu la vue, vous aviez 27 ans, donc vous n'étiez pas encore marié à ce moment-là.
Non, j'étais en vacances et... J'étais en vacances et je me baladais. Enfin, bref, me baladais et tout. Et puis... Bon, cette femme, elle est venue me dire bonjour, quoi. Et puis, alors.
C'est elle qui vous a abordé.
Oui. Et moi, j'ai dit, bon, ben, est-ce que vous connaissez une brasserie ou un truc comme ça? Et puis, ben voilà. Et puis après, j'ai dit, ben, si vous voulez voir comment un non-voyant il vit, tout ça, je peux vous inviter à un week-end et tout.
Bien
elle
vu.
Elle est venue un week-end et elle n'est jamais repartie. Ça a duré 14 ans.
Ah oui.
Oui.
Ah oui, elle est... ah, d'accord. Bah oui, ça a été un très grand coup de foudre.
Oui, mais voilà. Et après, bon, je ne lui en veux pas d'ailleurs. Et c'est même pas le fait de mon handicap puisqu'elle m'a connu. C'est-à-dire bien que sûr. Bon, après 14 ans, elle ne m'aimait plus, c'est tout. Il y avait la routine, il y avait tout ça.
Bien sûr. Et puis
elle avait envie de vivre une autre vie. Et ce que je peux comprendre. Mais si ça n'a rien à voir, là, vous savez. Quand on aime quelqu'un, je dis pas qu'on s'en fout de son handicap, c'est pas vrai, mais on ne voit pas son handicap.
Oui,
quand
ça,
on
aime la personne. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai.
Ben, bien sûr que oui. Voyons. Ouais. Vous avez des très belles filles ou des très beaux hommes qui sont avec des femmes handicapées en fauteuil roulant ou ceci ou cela, quoi. Mais ceci dit, Caroline, vous avez touché un point qui est assez sensible et vous avez raison de le signaler. Vous savez, je sais tout de suite avec la personne si ça va fonctionner ou pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a des femmes, quand je prends ma canne, bon, bah, ils sont, voilà, je prends ta canne, il n'y a pas de problème. Et si la femme me dit, comme on me l'a déjà dit assez souvent, non, prends pas ta canne, hein, t'as pas besoin de ta canne, hein, t'as comme tenir au bras, prends pas ta canne.
Ah oui, oui.
Voilà. Ouais. Alors, je suis tributaire du regard des autres.
Oui. Mais parce que la personne qui vit en couple avec une personne aussi qui a un handicap, elle aussi, elle le subit. Et ça peut être source de blessures. Évidemment, en premier lieu, pour la personne qui a le handicap, mais aussi pour l'autre personne en couple qui est confrontée au regard, à la curiosité, parfois. Enfin, avec des questions, parfois un peu malsaines, quoi. Enfin, malheureusement.
Oui, je ris parce que, bref, combien de fois on me disait, vous êtes marié? Vous n'avez pas d'enfant? Ben, je dis, si, j'ai des enfants. C'est-à-dire que, bon, c'est pas, il y a quand même des gens intelligents qui sont un peu plus évolués.
Oui,
mais c'est pour vous dire que, Ben, y a des questions qui sont très surprenantes oui. par rapport à la méconnaissance, quoi.
Oui, comme si vous ne pouviez pas avoir d'enfant. Ben, finalement, la vie de couple, l'amour, vous était interdit.
Ouais. Non, non, mais c'est, vous savez, c'est voilà, c'est genre de bêtises que j'ai entendu. Bon, pourtant, c'est une femme qui avait l'air d'avoir un peu d'intelligence. Et cette femme dit oui, mais enfin, ça m'embête. Moi, j'aime bien aller à la batterie, à la braderie, tout ça. Tu ne pourras pas aller me conduire. Moi, j'aime bien aller aux courses et tout ça. Oh. Ben, oui, mais non. C'est pas ça, la vie, quoi. C'est...
Oui, mais enfin, moi. Oui, enfin, c'est très. C'est pas. C'est. Bon, très égocentrique et en tout cas, un manque de tact. En
mais plus. C'est pas la majorité. Mais c'est heureusement. Une minorité,
mais alors, je vais vous dire, parce que je voudrais vous lire quand même, avant les infos de minuit, là. Il y a beaucoup de réactions. Et je vais vous en lire quelques-unes et Paul va prendre le relais. Il y a l'homme au camélia qui dit bah oui. J'écoute Stéphane et on devine combien sa cécité lui permet d'entendre. À tous les sens du terme. Oui. Y a Sergio qui dit une bien belle vision de la vie, ce monsieur qui a perdu la vue. Il ajoute une petite pensée pour l'ivoirien. Alors, c'était un nom d'artiste, d'un monsieur comme ça qui nous avait parlé de son parcours aussi, qui avait perdu la vue et qui faisait du théâtre. Et c'était son nom de scène, c'était l'ivoirien. On l'embrasse, c'est vrai que s'il écoute. Et en tout cas, Sergio qui dit bonne chance, Stéphane, vous méritez une belle âme sœur. Et c'est ce que dit aussi la dame de cœur qui dit votre optimisme force l'admiration, chapeau Stéphane. Puis il y a Tania aussi qui aimerait rentrer en relation avec vous. Alors Tania est malvoyante, mais là aussi si vous voulez, dans les sites de rencontres, vous dites, c'est pas parce que vous êtes non-voyant ou malvoyant que vous devez forcément être en couple avec quelqu'un qui a le même handicap que vous. Il y a beaucoup de femmes, c'est joli aussi, on transmettra hein, bien sûr Tania vos coordonnées, mais j'ai bien aimé le message de auditrice qui dit, bah moi, si je n'étais pas en couple, franchement, je serais en train de tomber amoureuse de vous, Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres? C'est joli.
Ah oui, il y en a des réactions. Ah, et Paul. Oui. Il y a Sabrina qui vous trouve profond, plein de dignité. Vous méritez de trouver l'âme sœur. Elle écrit ça aussi, Sabrina. Ce que je vous souhaite sincèrement. Il y a Alexandra qui vous comprend. Je comprends si bien ce que vous expliquez avec clarté et joliesse. Je suis encore assez jeune. J'ai une maladie inconnue pour le moment qui m'handicape de plus en plus. Et donc, j'ai dû apprendre à apprécier les joies simples du quotidien, à définir la valeur humaine autrement. J'aurais bien aimé vous rencontrer comme n'importe quel autre homme. Il y a Dominique qui dit, ben vous
mais
aussi.
Pourquoi pas?
Ben oui, Alexandra, c'est vrai, laissez votre
numéro. Vous vous trouvez où d'ailleurs, Stéphane? Dans quelle région?
Alors moi, j'habite près de Berck-sur-Mer.
Près de Berck-sur-Mer, d'accord.
Voilà.
Ouais, c'est une belle région.
Il y a Dominique qui dit, ben vous aussi, monsieur, vous nous donnez une belle leçon de vie. J'ai l'impression que pour déguster pleinement la vie, il faut souffrir ou avoir souffert. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que dit Dominique. Il y a Josie, vous lui faites penser à un ami, un ancien voisin qui était devenu malvoyant, qui la guidait lorsqu'il faisait des petites sorties avec les chiens respectifs. Il faisait son jardin, la cuisine, suivait un film, une émission, s'occupait de sa petite femme. Elle adorait l'écouter, l'admirait. Pourquoi faire état de cette non-voyance? Car ce sens qu'ils n'ont plus est compensé par tellement de douceur, de connaissance. Quel dommage que je sois beaucoup plus âgé. Sinon, Josie, bah, il serait allé. Et il y a Claude. Et Claude, ils ont parlé de Bébel toute la semaine dernière.
Oui.
Mais finalement, Stéphane, c'est vous qui êtes le magnifique.
Oh, c'est beau. Mais c'est beau. Si, bah, prenez.
C'était pas.
Mais je sais bien. Mais c'est joli. C'est joli. C'est un bel hommage à vous. Et en fait, n'oublions pas, parce qu'il y a de très jolis messages pour vous. Mais enfin, on perd pas l'essentiel de vue, Stéphane. C'est que vous êtes, à la base, vous vous êtes inscrit sur un site de rencontre. Vous aimeriez bien.
Rencontrer
l'âme sœur. La radio, c'est le meilleur des réseaux sociaux. Donc 09 69 39 10 11. Vraiment, n'hésitez pas à nous laisser des messages si, comme nous tous, vous avez été charmés, vous êtes tombés sous le charme de Stéphane. On sera heureux de transmettre vos coordonnées à Stéphane. Je me disais aussi en vous écoutant, parce que je comprends à quel point la présence de votre petite chienne vous manque. Vous savez, il n'y a jamais eu autant d'abandon cet été d'animaux. Et je me dis, pourquoi vous priver de cette présence? Vous l'aviez prise à la SPA. Il y en a certainement un ou une qui n'attend que vous, à qui vous pourriez apporter beaucoup et qui vous apporterait certainement beaucoup.
Oui, mais pour l'instant, j'ai pas encore fait ma période de deuil.
Alors, donnez-vous le temps. Je comprends tout à fait. Donnez-vous le temps, mais les refuges sont pleins et appellent au secours. Il y en a beaucoup qui attendent de l'affection et de l'amour. Je vous embrasse, Stéphane, et j'espère qu'on vous transmettra des coordonnées. Bien sûr, on vous transmettra le numéro de téléphone de Tania, et j'espère beaucoup d'autres.
Avec joie, oui.
Je vous embrasse, Stéphane. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Au revoir.